Bonjour et bienvenue sur les routes de la musique à bord de ma mobylette cosmique. Aujourd'hui, dernier jour de l'année, nous allons méditer sur ce que nous voyons tous les jours représenté sous nos yeux et qu'à force de voir, eh bien, nous ne voyons plus. Prenons les représentations égyptiennes, tiens, au hasard par exemple. Au musée du Louvre, sur les bas-reliefs, place de la Concorde à Paris, sur des illustrations publicitaires, nous avons tellement l'habitude de voir ces personnages reproduits de profil que nous ne savons plus pourquoi ils sont représentés ainsi. Eh bien, nous allons découvrir aujourd'hui qu'entre le sculpteur d'Akhenaton et Picasso, la même révolution était en marche.
France Inter, les routes de la musique, André Manoukian.
Merci Prince de nous avoir donné toutes ces belles chansons. Celle-ci était Alphabet Street sur France Inter. Pour rendre le monde autour de nous intelligible, il a fallu commencer par nommer les choses, pour mieux les partager. En établissant une relation de l'objet à moi par un récit qui le décrit, ou un dessin qui le représente en deux dimensions, ou une statue qui le représente en trois dimensions, j'ai accès à une partie de la vérité de cet objet. L'abondance des bisons sur une peinture pariétale, la longueur des cornes d'un mammouth, le pelage tacheté d'une hyène, offrent à Homo sapiens un morceau du réel de l'animal, à partir duquel il reproduit par la pensée la totalité de l'être qu'il a représenté. Cette relation riche, chargée d'émotions, d'affects, qui s'établit entre l'animal et l'homme, donne le sentiment que ça marche dans les deux sens, que l'homme, du coup, peut aussi agir sur l'animal qu'il a représenté. Par le truchement de l'objet qu'il symbolise, symbole du grec symboline rassemblé, il a accès à une part de la vérité de l'objet représenté. Le symbole, c'est ce qui rassemble la représentation de l'objet avec sa vérité, avec l'idée de l'objet, dirait Platon. Cette idée platonicienne est née assurément sur les parois décorées des cavernes paléolithiques. L'idée de la caverne est sans doute née sur les murs d'une caverne.
Platon, raconte-nous une histoire.
Figure-toi des hommes dans une caverne. Ils sont là depuis leur enfance. Les jambes et le cou pris dans des chaînes, en sorte qu'ils ne peuvent bouger de place ni voir ailleurs que devant eux. La lumière d'un feu allumé au loin sur une hauteur brille derrière eux. Entre le feu et les prisonniers, il y a une route élevée. Le long de cette route, des figures d'hommes et d'animaux en pierre, en bois, de toutes sortes de formes.
Voilà un étrange tableau et d'étranges prisonniers.
Ils nous ressemblent. Penses-tu que dans cette situation, ils aient vu d'eux-mêmes et de leurs voisins autre chose que les ombres projetées par le feu sur la partie de la caverne qui leur fait face? Dès lors, ne penses-tu pas qu'ils croiraient nommer les objets réels eux-mêmes en nommant les ombres qu'ils verraient?
Si, par Zeus.
Platon dessine des ombres sur les murs de la caverne.
La vérité, selon Platon, c'est l'idée abstraite et générale d'une chose, son essence. La réalité sensible n'est qu'une illusion, une ombre.
Mais c'est quoi le réel alors ?
Eh bien, l'image du monde que nous avons, c'est le reflet dans le fleuve de quelque chose.
Nous regardons nos idées reçues dans une flaque de boue. Platon jette un caillou dedans.
Il a introduit dans la philosophie ce sentiment très profond qu'en dehors de la réalité concrète, immédiate, présente, il y a une autre réalité. Il y a une sorte de réalité supérieure qu'on n'atteint pas par les sens. Et que cette réalité est peut-être la réalité la plus profonde dont nous ne saisissons que des reflets.
Bon, bah, pour voir le réel, moi je ferme les yeux.
Allez, revenons à la grammaire que je vous ai promise pour sujet d'étude en cette fin d'année. Ah ah, vous pensiez que j'avais oublié que je m'étais égaré dans les divagations platoniciennes? Non, vous n'y couperez pas. Allez, on commence comme d'habitude par l'étymologie. Grammaire du grec ancien grammatiké, art de lire et d'écrire. Par extension, on a employé ce mot pour décrire une langue en analysant ses éléments constitutifs. À propos du premier mot, il est probable que certains soient faits de l'imitation sonore de la chose évoquée. C'est la théorie Wawa, soutenue par Leibniz dans ses nouveaux essais sur l'entendement humain en 1765. Murmurer, rugir, rouler, crier, ces mots imitent le son des objets auxquels ils se réfèrent. Et puis, la manière de les agencer, la grammaire, est née de l'expérience et de l'usage, du fait que les hommes se sont mis à travailler ensemble. De même, les dessins imitent l'objet représenté. Mais d'où vient la modernité époustouflante des représentations animales des grottes de Lascaux? D'où vient la beauté des représentations égyptiennes?
D'où viennent les premiers mots de l'homme?
Il est intéressant, quand on regarde le langage de l'enfant, de se souvenir de ce qu'a pu être le langage des tout premiers humains quand ils ont développé le langage articulé. Les sons que l'homme primitif, il y a 700 000 ans, prononçait, c'était des copies des sons de l'environnement, comme l'enfant, du reste. L'enfant, il copie le son d'une motocyclette qui passe, fait wawa, le chien. Donc, il copie tout ce qu'il entend. Et l'homme a dû procéder comme ça, et il a retenu certains sons en leur attribuant des qualités qu'il attribuait à l'animal qui émettait ce son. Du reste, à l'heure actuelle, on dit « rusé comme un renard, fort comme un bœuf ». À cette époque-là, c'était le son, le phonème fondamental du cri de l'animal qui est devenu la représentation de quelque chose, d'une propriété abstraite qu'on attribuait à l'animal, qui était quelquefois une propriété mythique du reste.
Logique, on représente les choses par leur bruit. Mais on ne peut pas dire si l'on veut du lait chaud ou des nouilles avec des bruits.
La première théorie, elle est maintenant plutôt abandonnée, c'était que l'homme a inventé le langage pour désigner des objets. Or, en fait, il a développé le langage articulé pour désigner des idées. L'objet, il pouvait le dessiner, il pouvait le montrer du doigt. L'idée d'amour, l'idée de philosophie, il ne pouvait pas la dessiner et pas la montrer du doigt.
C'est donc pour parler d'amour et de philosophie que nous avons inventé le langage. Ah ouais, on l'oublie parfois.
Shadow you're drawn. Why did you go? Paperweight took a toll. Food on the floor not to be wasted. Adore what's being pasted and know that it's not a copy. I own the prize instead of gas prices. Lyrically wonder why I travel past the nicest. Born of a generation that don't generate patience and travel too fast for you to clock me. Not always a good thing. You can lose the love of your life through the lifetime of love on tour. I didn't mean to be a whore, but my hormones had me like a fiend screaming, "What you got for me?" Two words, I'm mortal. But the fans slid them both together and removed the apostrophe. Hip-hop lords, maybe, but my ways need laundering. Time's a ticking, stop squandering.
De La Soul et Little Dragon qui nous chantait Drone sur France Inter.
André Manoukian, Les routes de la musique sur France Inter.
L'unique différence entre moi et un fou, c'est que je ne suis pas fou. Bonjour.
Depuis l'Antiquité, les penseurs, dont Aristote, ont tenté d'établir une grammaire universelle, c'est-à-dire une manière commune de donner un sens au monde en le classant selon des catégories. Kant, Hegel, Popper ont entrepris cette démarche, mais en fait, tout penseur ayant un peu d'imagination a regardé le monde selon des catégories. De même, le travail de l'artiste est d'avancer pas à pas sur le chemin qui le mène de l'objet à sa représentation. Il analyse la chose observée dans un premier temps, puis, en mettant en ordre les données qu'il a compilées, il restitue, ou du moins il tente de restituer, la vérité de son modèle. La créativité, c'est donc la comparaison constante, c'est le va-et-vient permanent entre l'œuvre en train de se faire et le matériau observé.
André, vous parlez de l'art amarnien ou vous parlez de Picasso ?
Picasso aimait à dire « ses peintures, il suffirait de les découper, car ses couleurs ne sont somme toute que des indications de perspectives différentes. Ses plans inclinés d'un côté ou de l'autre. »
Nefertiti pose pour Pablo Picasso.
Si la reine veut prendre place.
Il y a une chose qui me frappe beaucoup, c'est l'ensemble des yeux, hein, ces regards. Ce sont deux femmes qui nous font les yeux doux. Hein, et puis, des regards qui nous viennent d'au-delà de la jungle.
Et Picasso plume le poulet de la réalité, comme dirait André.
Lorsque Picasso regarde une femme, il veut la regarder à travers non seulement plusieurs endroits, mais à travers plusieurs époques. C'est une façon nouvelle d'introduire l'histoire de la peinture à l'intérieur de la peinture elle-même.
Si la reine veut diriger son regard, nous pourrons commencer.
Et différentes réalités coexistent sur une même toile.
Picasso tourne autour de son objet pour chercher toujours quoi d'autre on pourrait dire sur la même chose.
Et le même objet, la même Nefertiti, peut être représenté de mille manières.
Excusez-moi, mais j'ai des fourmis.
Arrête.
Pour être un artiste, il faut être curieux du monde qui nous entoure. Pour l'appréhender, ce monde, eh ben, il faut d'abord le découper en petits morceaux. L'analyser, du grec « ana », le haut, et l'huein, secoué, décomposé en tenant par le haut. Analyser, c'est plumer le poulet de la réalité, en quelque sorte. Dans ce cas, pourquoi les dessins des Égyptiens ne sont-ils pas réalistes? Cette pose de profil si caractéristique n'existe pas dans la nature. Entre la représentation et l'objet, il y a le style. Le style, c'est l'outil qui reconstruit l'objet dans toute sa grandeur. Dans un premier temps, pour l'analyser, on découpe en petits morceaux. Dans un deuxième temps, pour reconstruire l'objet, il s'agit que chacun des morceaux soit représenté, que l'on ait accès à la moindre partie du corps. Alors, un peu comme une planisphère déforme la carte du monde en aplatissant le globe sur une surface plane, l'artiste égyptien nous présente le corps à plat de manière à ce que l'on voit tout. Le visage est de profil, comme sur une photo anthropométrique ou sur une pièce de monnaie, parce qu'on va mieux le reconnaître de profil. Mais l'œil est de face, comme pour mieux saisir l'âme de celui qui est représenté. Et puis l'œil, c'est l'œil d'Horus qui a été arraché par Seth, le méchant, et restitué par le dieu Thoth, et qui devient un symbole de protection, un talisman qui perdure dans le monde ottoman.
Don't
André, la représentation du monde en musique, elle aussi, elle a subi des révolutions ?
Oh, elle a subi bien des révolutions, Elsa. Alors, la représentation du monde en musique, on s'est amusé déjà ici à dire que, comme c'est Pythagore qui a inventé la gamme, Pythagore qui était en Égypte, donc qui a sûrement piqué la gamme aux Égyptiens, à partir d'une note et de ses harmoniques. Vous vous souvenez, il y a le Do, puis la première harmonique, le Do à l'octave, puis la seconde, le Sol, puis la troisième, le Do, puis la quatrième, la tierce, puis la cinquième, puis la sixième. Voilà toutes les notes que j'entends normalement dans une note de musique, si j'avais l'oreille d'un chien, c'est-à-dire si j'entendais jusqu'aux ultrasons. Il y a des gens qui entendent les harmoniques des sons. Donc tout notre système occidental, enfin tout notre système musical va se construire autour de ces notes fortes, de cet accord parfait majeur qui va induire toutes les autres notes de la gamme et surtout qui va donner des rapports de force entre les notes. Celle-ci, elle a envie d'aller sur le Do, le Ré a envie d'aller sur le Do, le Fa sur le Mi. Donc, je suis dans un système qui a des forces, qui a des patrons. Le patron, c'est le Do majeur sur lequel je vais atterrir systématiquement, qui va signifier la fin. Si je reste suspendu dans des autres accords, Je suis sans arrêt finalement attiré entre une tension et sa résolution. Mais tout ça, ça affirme quoi? Ça affirme une tonalité. La tonalité, c'est Do majeur. Ensuite, tout ce qui est, je peux jouer en mineur naturellement, La mineur appartient au Do majeur. Ainsi, il y a une tonalité, comme s'il y avait un peu un Dieu unique qui impose sa tonalité, qui impose sa pensée et qui rassemble tout le monde. Voilà tout le système sur lequel Bach, puis tous les classiques de Vienne, puis tout, vont construire toute notre musique occidentale. Et puis au 19e siècle, fin du 19e siècle, il y a une révolution. Et la révolution, elle vient quoi? De la rencontre de l'Occident avec l'Orient. L'Orient et l'Extrême-Orient. Debussy et Ravel, à la Foire universelle de Paris, vont découvrir les musiques de Bali, les musiques de l'Extrême-Orient. Vous entendez cette gamme qui sonne typiquement extrême-orientale, qui sonne chinoise, japonisante, balinaise, parce que les Asiatiques ont la gamme à 5 notes, la gamme pentatonique. Alors cette gamme pentatonique, c'est un petit peu une gamme de laquelle on a évacué les deux notes sensibles, le si et le fa, qui font la tension et en même temps tout le sel de notre gamme majeure. En découvrant tout d'un coup de nouvelles couleurs, Debussy et Ravel, ils vont avoir envie de réexplorer ce qu'on va appeler la musique modale. La musique modale, c'est quoi? C'est un mode. Les orientaux n'ont pas que la gamme pentatonique, ils ont aussi d'autres manières de monter la gamme. C'est-à-dire que je vais prendre, au lieu d'être toujours sur mon système de Do majeur, je vais prendre un mode. Prenons le mode de Mi, par exemple, qui, quand même, et j'allais dire, découle de ma gamme de Do majeur. Le mode de Mi, c'est la gamme de Do majeur, mais qui, au lieu de partir sur un Do, part sur un Mi. C'est le mode le plus caractéristique. Pourquoi? Parce qu'il nous rappelle... Olé! Évidemment, c'est le mode qui nous rappelle le mode espagnol. Le mode flamenco. Le mode du flamenco qui, lui-même, est dérivé du mode mozarabe, c'est-à-dire qui vient de l'Orient. Vous voyez, on commence sur une seconde diminuée. Tout de suite, on a une autre couleur. Et si je reste finalement dans ce mode-là, Albénis, quand Ravel fait son boléro, il est très influencé par ce mode également. Alors tout d'un coup, je vais être dans une autre couleur. Je vais arrêter de systématiquement tout résoudre en Do majeur, tout résoudre dans un principe tonal. Je vais jouer sur la couleur du son. Et plus tard, quand Miles Davis, quelques dizaines d'années après Debussy et Ravel, va remettre dans le jazz cette couleur modale. Voilà tout d'un coup que je me balade sur une tonalité. Ici, c'est le mode de rien, le mode de ré, mais que je joue avec des cartes. J'ai vraiment comme une palette impressionniste. Et puis la même chose, je vais le transposer un demi-ton au-dessus. Donc, je joue toujours sur cette même sensation, mais en le transposant. Là, c'est facile en Do, hein, avec un système de cartes en plus, qui vient aussi d'Orient, on va dire, et puis je rajoute cette tierce. Regardez, sur le piano, c'est super facile. Entraînez-vous à faire ça sur toute votre gamme. Tout d'un coup, je monte cette gamme de do, mais dans un agencement différent, et là, je suis dans une couleur. Et je vais faire la même chose en demi-ton au-dessus. Et puis, je reviens. C'est ce que j'appellerais la représentation du monde sous forme de mode, c'est-à-dire tout d'un coup de sensation. Tout est un petit peu uniformisé dans un système de sentiments. Et ça, c'est un sentiment qui est peut-être typiquement oriental. Comme dire, il y a une couleur, il y a une note qui nous réunit tous finalement, qui nous unit dans une forme d'harmonie suspendue un petit peu dans le temps. Il y a quelque chose de zen dans la musique modale, contrairement à la musique tonale. On conclut jamais dans la musique modale. On est toujours suspendu entre deux états.
Les routes de la musique. André Manoukian sur France Inter.
Noble étranger, un petit portrait en souvenir?
Ma foi, pourquoi pas.
Alors mettez-vous de profil, les épaules bien de face. Ah, pas trop quand même.
Oui, sur un bas-relief égyptien, les personnages sont représentés dans une stylistique immuable. La tête est de profil, l'œil est de face, les pieds sont parfois deux pieds gauches parce que l'intérieur du pied se dessine de manière plus précise. Les mains se présentent l'une par la paume, l'autre par le revers. Enfin, le torse est de face. Chaque élément du corps est représenté selon l'angle qui le caractérise le mieux. Et puis le tout est assemblé dans des positions précises, comme une danse sacrée qui serait figée dans la pierre pour les siècles. Le travail du sculpteur égyptien est le même que celui des cubistes du XXe siècle, reconstituer un être dans sa vérité spirituelle plutôt que dans sa réalité physique. Ainsi, la contemplation d'un Picasso ou d'une représentation de Ramsès établit un contact direct entre l'âme de l'artiste et celle de celui qui contemple. Le dessin devient un langage codé, métaphysique, de même que le hiéroglyphe est une écriture sacrée. L'édifice majeur du style égyptien, c'est de vouloir reproduire des archétypes plutôt que du réel. L'art chez les Égyptiens n'imite pas la nature, il va plus loin, il révèle l'essence de la nature. Le dessin stylisé a la prétention de reproduire un archétype que l'on pourrait qualifier, de manière anachronique, de platonicien. L'idée de l'objet est représentée plutôt que l'objet lui-même. De plus, si les hommes et les femmes étaient représentés à la fois de profil et de face, c'était dans un souci religieux. Il fallait représenter la personne avec l'ensemble de ses membres, car elle devait être dans toute son intégrité dans l'au-delà. Si l'on ne voyait qu'une jambe parce qu'elle était cachée par l'autre, eh bien le défunt aurait risqué d'en être amputé dans son autre vie. Aussi, les représentations ne visent pas à être réalistes, au sens où nous l'entendons aujourd'hui, mais à être exact, à représenter l'essence de chaque chose. Il s'agit de capturer la nature de chaque être pour le conserver pour l'éternité. L'art égyptien était religieux. Les artistes devaient suivre très rigoureusement la tradition.
Viens, mon enfant. Tu es la femme la plus favorisée de toute l'Égypte.
J'ignore ce que signifient tous ces rites étranges. Suis-je maintenant une prêtresse ?
Non, mon enfant. Tu es maintenant la fiancée de tout le royaume. Tu portes l'espoir de l'Égypte.
La fiancée.
Tu vas être l'épouse d'Amenophis.
À Néfertiti, la plus belle reine qui soit jamais montée sur le trône d'Égypte.
Akhenaton va pratiquer une rupture révolutionnaire dans l'art égyptien. Il va introduire un changement. En inventant son propre dieu, le dieu solaire Aton, il veut marquer son époque d'un nouveau style et libérer l'art des carcans des anciennes religions, avec davantage de souplesse, d'harmonie et de vie dans les dessins, dans les courbes. Il introduit un réalisme et une sensualité inédites. Il suffit d'observer sur le buste de Néfertiti, sa femme, sur ce buste exposé à Berlin, la commissure de ses lèvres, avec de fines ridules qui dessinent une moue comme une esquisse de sourire, bien avant la Joconde. On a le sentiment, quand on regarde le buste de Néfertiti, qu'elle va entrouvrir la bouche pour murmurer. Et voilà qu'on a une envie furieuse d'y déposer un baiser.
La révolution d'Akhenaton bouleverse tout.
Au XIVe siècle avant Jésus-Christ, un pharaon de la 18e dynastie, Amenophis IV, bouleverse brusquement les règles établies de la religion égyptienne. La religion, la politique, l'art, les idées de l'Égypte et du monde allaient se ressentir de cette aventure amarnienne.
Et avec Akhenaton, c'est aussi la place de la femme dans la société qui change.
Le grand leitmotiv d'Amenophis IV était la suivante. Nous ne sommes rien sans le Créateur, et le Créateur est la somme des deux principes. C'est l'élément mâle et l'élément femelle.
Et son leitmotiv se retrouve dans l'art amarnien.
La place donnée à la femme devient de plus en plus importante. On ne voit que des princesses. Même lorsqu'il y a des princes à la cour, on ne les voit plus. Ce sont les princesses.
On voit le roi avec sa famille, embrassant ses filles, son épouse, entraînant même Néfertiti vers le lit nuptial.
Sur tous les murs des tombes amarniennes, sur les stèles, sur les bas-reliefs que l'on a retrouvés, on ne voit presque jamais le roi sans la reine. L'élément complémentaire sans laquelle il ne peut rien.
Akhenaton était donc le premier féministe.
One day we walked along the sand, one day in early spring. You held a piper in your hand to mend its broken wing.
remember many a day and many a lonely mile. The echo of a piper's song, the shadow of a smile.
Kissed your lips, and so did I. Now when I remember spring, all the joy that love can bring, shadow of your smile.
C'est un acte de folie de répandre le sang. C'est une offense au seul vrai Dieu, Aton.
Oh, par pitié, écoute-moi, Aménophis. Tes généraux ont besoin de toi.
Ils n'ont besoin que de la lumière d'Aton. Elle nous est nécessaire. Fais venir ce père. Amène-le-moi.
Ce père ?
Oui. Il fera jaillir par ses prières la lumière du cœur d'Aton.
Akhenaton sans Néfertiti n'existe pas. Le pharaon a besoin de son énergie féminine pour accomplir le grand œuvre. Akhenaton non seulement remet en cause le polythéisme égyptien en instaurant Aton en dieu solaire unique, mais de plus, il va imposer un nouveau mode de vie en s'érigeant comme modèle, lui et son épouse. Voyant qu'il ne peut imposer son nouveau culte aux prêtres de Thèbes où règne sans partage le dieu Amon, il décide de fonder une nouvelle capitale, Ex Nihilo, sortie du désert qu'il va appeler Akhetaton, ce qui signifie « horizon d'Aton ». On a retrouvé ses ruines sur un site désormais appelé Tel El Amarna. La ville fut élevée rapidement en briques crues et en talatate des blocs de grès de petite taille, qui rompent avec l'usage de blocs de pierre beaucoup plus gros employés dans les temples traditionnels. Comme si, jusque dans les matériaux de construction, Akhenaton avait voulu marquer son époque. 4 ans après sa fondation, la nouvelle ville dédiée au soleil était déjà habitée par une population nombreuse, qu'on estime à 20 000 personnes au moins. Des stèles frontières délimitèrent le territoire de la ville. Sur l'une d'entre elles, le roi proclame qu'Aton lui-même avait choisi cet emplacement parce qu'il était vierge de la présence de toute autre divinité. Akhétaton est la seule ville de l'Égypte antique dont nous ayons une connaissance détaillée, notamment à cause du fait qu'elle fut désertée peu de temps après la mort d'Akhénaton pour ne plus jamais être occupée. Ainsi, aucune autre strate ne vint altérer l'intégrité de cette ville égyptienne qui dura à peine 2 décennies.
Le taxi nous dépose à Akhétaton.
Le nouveau temple où le pharaon adore son propre dieu. Regarde.
Néfertiti, car la grenouille nous accueille.
Quelquefois, la nuit, ce parc, le grand drapeau sur le grand palais, c'est magnifique.
C'est en fait une ville palatiale, c'est-à-dire que c'est quelque chose comme Versailles. C'est-à-dire un palais, ce qui lui permet de fonctionner.
Nous visitons la cité. L'art amarnien s'expose dans les palais, les temples, sur les stèles et les tombeaux.
Il veut une nouvelle zone dédiée entièrement au disque Aton. Pour cela, il décide un territoire qui fait à peu près 250 hectares. Et la ville va être construite sur la rive est. Et en fait, c'est une ville palatiale. C'est-à-dire qu'il y a en gros une avenue royale qui dessert des temples et des palais.
Sur les scènes, on peut voir Akhenaton et sa femme, Néfertiti.
En fait, il a un raffinement, mon mari.
Akhenaton.
Moi, j'ai moins. Enfin, c'est vrai que dans l'art, les différents arts qu'on peut mêler ici au palais, il y a un raffinement que j'apprécie d'autant plus et que lui a tout naturellement, même pour notre vie quotidienne.
Ah, pour nous, c'est l'heure de quitter Akhetaton. Au revoir, Néfertiti. Et joyeuse Pâques.
Alors, comment on sort?
On sort par la porte. Car ici, on ne sort pas par la fenêtre.
Le site fut exploré au 19e siècle par des missions archéologiques britanniques et allemandes. L'allemand Karl Richard Lapsus, celui-là même qui, en tant que linguiste, qualifia de sémites les langues sumériennes et par extension ceux qui parlent les langues dérivées de ces langues antiques, à savoir l'hébreu et l'arabe, l'allemand Karl Richard Lapsus copia les inscriptions, les fresques et les reliefs auxquels il avait accès. Bien plus tard, de 1907 à 1914, la Deutsche Orientgesellschaft tombe sur une mine, un gisement de statues plus sublimes les unes que les autres, portant ce style unique qui n'existera nulle part ailleurs. Le début de la vie dans un style figé depuis un millénaire. L'art que l'on décrit comme amarnien, parce que découvert dans le lieu qui nommait désormais Tel El Amarna, mais que l'on devrait appeler l'art akhenatonien, tant il porte la marque de son inspirateur, dans son souci de libérer ce qui est figé et rendre grâce à la légèreté de la vie. Cette mine, ce gisement, c'est tout simplement l'atelier du sculpteur Toutmès, le sculpteur officiel d'Akhenaton, atelier dans lequel on découvrit le buste de Néfertiti qui est exposé depuis 2009 à Berlin. Le fameux buste qui est si irrésistible qu'on voudrait l'embrasser.
Who made these rules? We're so confused. Easily.
philosophy, possibly speak tongues. Drums, Abyssinian, street Baptist, rap this and fine linen. From the beginning, my practice extending across the atlas. I begat this, flipping in together on the dirty mattress. You can't match this, rapper slash actress. More powerful than two Cleopatras. Bomb graffiti on the tomb of Nefertiti. MCs ain't ready to take it to the Serengeti. My rhymes is heavy, like the mind of Sister Betty. El Boogie spars with stars and constellations. Then came down for a little conversation. Adjacent to the king, fear no human being. Roll with cherubims to Nassau Coliseum. Now hear this mixture, where hip hop meets scripture. Develop a negative into a positive picture.
Now everything is everything.
Sometimes it seems.
Sometimes it seems.
We'll touch that dream.
We'll touch that
but
dream.
But things come slow and not at all.
They come slow.
And the ones on time.
The ones on time.
Won't make it stop. So convinced that they might fall. Let's love ourselves and we can't fail.
Ainsi s'achève notre dernière émission de l'année. Cette émission qui était produite par la sculpturale Anne-Sophie Ladonne, enregistrée par l'adoniste des ingénieurs du son de Radio France, Kevin Pelot. La mise en musique magistrale et révolutionnaire de Muriel Pérez et la voix désincarnée au profil stylisé d'Elsa Denac. Passez de bonnes fêtes, finissez bien l'année et rendez-vous en 2017.